Le nouveau est dans le passé, ça paraît totalement paradoxal, puisqu'on a toujours imaginé que le passé était dépassé.
Cannes 1939, le festival qui n'a pas eu lieu.
Il y a moins d'un an, nous étions à Venise. Fin septembre, c'était Munich, tout l'hiver immobile. Puis, plusieurs mois avant d'arrêter le choix de la ville. Il y a un mois encore, rien n'était tout à fait décidé. Et nous voilà. La liste des films est presque prête, les hôtels aussi. Les gens arrivent. La Metro-Goldwyn-Mayer, paraît-il, a affrété un transatlantique plein à craquer de vedettes et de cinéastes. Il me semble que je vis une sorte de long rêve éveillé. Et que quand je me réveillerai, cette illusion magnifique et gigantesque s'évanouira d'un coup.
Dans le bunker de Cannes, qui a été baptisé Palais des Festivals, une plaque a été vissée, puis assez vite escamotée d'ailleurs. Jean Zay, dont on vient d'entendre quelques propos, y était honoré comme le créateur du Festival international du film. Le ministre, rescapé en 1939 de l'équipe du Front populaire de 1936, avait mené l'affaire à marche forcée. Il s'agissait de contrer la Mostra de Venise qui, de rendez-vous international du cinéma, devenait un outil pour Goebbels de mener face à l'Axe par la culture une diplomatie enfin offensive. Les Anglais n'étaient pas les meilleurs alliés dans cette affaire. Jean Zay avait donc cherché l'appui des studios américains. Ceux-ci apprécièrent à sa juste valeur l'ouverture du marché français que promettait le ministre. Cannes 39, festival antifasciste, s'annonçait aussi comme une vitrine pour le cinéma US qui fournissait le tiers de la sélection. Comme souvent, Paris accordait beaucoup moins de subventions que les collectivités locales. La municipalité et les hôteliers de Cannes se réjouissaient de pouvoir prolonger leur saison d'été. Cette première édition était en effet prévue pour le début de septembre. La déclaration de guerre l'empêcha d'avoir lieu. Alors un festival avorté, plutôt un festival ajourné, puisque, comme pour beaucoup d'idées de Jean Zay, la réalisation vint après la libération.
La marche de l'histoire. France Inter, Jean Lebrun.
Olivier Loube, bonjour. Vous consacrez un livre chez Armand Collin au Festival de Cannes 1939. C'est un livre très bien monté, je dirais.
Ben, quand on écrit sur le cinéma, c'est un peu la moindre des choses. C'est vrai qu'on va de lieu de tournage en lieu de tournage.
Avec beaucoup d'illustrations, un sens du rythme. C'est un non-événement ou c'est un événement ?
Alors, si j'en crois mon maître Pierre Laborie, un événement, c'est ce qui advient à ce qui est advenu.
Un événement, c'est ce qui advient à ce qui est advenu.
Absolument. Or, le Festival de Cannes semblait ne pas être advenu puisqu'il n'avait pas eu lieu. C'est une grande erreur lorsqu'on va dans les archives et lorsqu'on se rend compte, chronologie en main, qu'en fait il s'arrête à 3 jours de son démarrage.
Olivier Loup, vous aviez consacré précédemment un livre à l'inconnu de la République. C'est ainsi que vous nommiez Jean Zay avant qu'il ne soit panthéonisé par la même République. Il faut que vous racontiez quand même la dynamique enclenchée par ce grand ministère qu'il pilotait de 36 à 39, qui allait de l'éducation nationale à ce qu'on appelait encore les beaux-arts et qui incluait le cinéma, lui donnait une grande dimension.
Oui, Jean Zay est ministre du cinéma parce qu'il est ministre de la culture sous l'appellation d'époque qui est celle des beaux-arts. Et lorsqu'il arrive en 1936, et avec Léon Blum d'ailleurs, ils ont l'idée de changer la donne dans le domaine culturel et de façon très large. C'est à la fois favoriser la plus jeune création possible, on le voit dans le théâtre, mais pour le cinéma aussi, et de favoriser aussi la mise en place de vrais statuts des métiers du cinéma et de la reconnaissance aussi de l'auteur. Qui est l'auteur d'un film, etc. Et donc, on a un tournant avec le Front Populaire dans la création de ce que sont nos repères concernant le cinéma.
Il a une pléiade de collaborateurs. L'un d'entre eux, Georges Huysmans, directeur des Beaux-Arts, va jouer un rôle dans la naissance du Festival international du cinéma. Je dis international parce que moi, je ne savais pas que Jean Zay, c'était un ministre qui passait 10% de son temps à l'étranger. Il avait une dimension, allez, on va utiliser le vocabulaire cinématographique,
panoramique.
Il a une dimension panoramique parce que c'est un généraliste de la politique. Jean Zay, c'est un homme qui est nommé à l'éducation nationale aux Beaux-Arts, mais qui est un homme politique généraliste. Et dès lors, il est particulièrement passionné par la politique internationale, d'autant qu'à l'époque, il y a cet affrontement entre les conceptions de politique internationale des Munichois et des anti-Munichois. Et Jean Zay a une vision large qui inclut la culture comme une diplomatie.
Avant Munich, la Mostra de août 1938. La Mostra, c'était un festival international qui existait depuis 1932 et qui, les premières années, a été très favorablement apprécié par les milieux cinématographiques internationaux.
Il faut dire que jusqu'à 1937 compris, et ça change en 38, la Mostra de Venise a un palmarès qui reflète ce qui, pour les milieux internationaux du cinéma correspond aux meilleures productions. On y retrouve, par exemple, des films français qui sont primés.
Mais en 38, ça change. Le palmarès est manipulé pour faire plaisir à Goebbels. Le Grand Prix, c'est le Lion d'Or, non?
Ah non, ça s'appelle la Coupe Mussolini.
Ah, déjà, il faut se méfier. Voici deux témoignages, concurrents ou complémentaires, de deux Français sur les conséquences de ce coup de force sur le palmarès de Venise. Ils rentrent l'un et l'autre début 1938. Le premier, c'est René Jeanne. Son témoignage a été recueilli à France Culture en 68. Le second qu'on entendra après, c'est Philippe Erlanger. Son témoignage a été recueilli avant.
En 1938, avant même que le festival n'eût commencé, tout Venise et au-delà savait que le prix principal, dit Coupe Mussolini, serait partagé entre le film allemand de Leni Riefenstahl sur les Jeux Olympiques de Berlin et le film italien dont un des fils de Mussolini, Vittorio, avait été le producteur. Cette façon d'attribuer des prix pour des considérations que l'on peut qualifier sans exagération d'extra-cinématographiques était plutôt déplaisante. Je le dis nettement dans mon rapport, quand je revins à Paris, et je demandais pourquoi la France ne prendrait pas l'initiative de créer un festival du même genre, d'où toute considération non cinématographique, non artistique, serait profondément exclue.
Tutte le maggiori e migliori energie della cinematografia europea si sono date con degno nella Serenissima, che ha imbandierato finestre ed altane.
Provenant du Festival de Venise, qui s'était terminé dans le tumulte, de nombreux pays, notamment les pays anglo-saxons, avaient décidé de ne pas y retourner. Dès mon arrivée, j'en ai parlé à une de mes collègues des Affaires étrangères, et c'est ensemble que nous avons fait le rapport qui a été soumis au gouvernement et adopté peu après. Le festival devait avoir lieu le 1er septembre 1939.
Le deuxième témoignage, c'est Philippe Erlanger qui vient d'être nommé à la tête de l'action culturelle à l'extérieur. Le premier, vous ne l'avez jamais entendu dans sa voix, c'est René Jeanne qui se donne quand même un peu le beau rôle dans cette affaire. Il a tout perçu, il était contre l'attribution à Leni Riefenstahl de la Coupe Mussolini. Il a fait un rapport, quel rapport, quel rapport?
C'est le charme irrésistible de la quête des origines et de vouloir être à l'origine de la naissance d'une passion comme celle du Festival de Cannes est proprement irrésistible, bien sûr. Alors René Jeanne est bien délégué de la France à Munich en 1938. À ce titre, il est membre du jury. Mais ce qu'on peut savoir, ce que disent les délégués anglo-saxons, le délégué américain, le délégué anglais, c'est que René Jeanne, lors de ce jury, s'est montré particulièrement conciliant par rapport à ce que le comte Volpi, qui est à la tête du jury de Venise, impose. Et contrairement à ce que dit René Jeanne ici, ce n'est pas quelque chose qu'on sait dès le début, puisqu'on a dans le journal de Goebbels la trace en fait d'un coup de fil qui est passé à Goebbels, et c'est Goebbels qui impose à parité les deux films au palmarès.
Donc dans les deux témoignages, c'est celui qui est de plus belle facture, ce qui pourrait provoquer la méfiance, celui de Philippe Erlanger, qui est peut-être le plus vraisemblable.
Le meilleur conteur n'est pas le pire historien.
Oui. Ah bah, c'est une jolie formule aussi. On mettra celle-ci en parallèle de celle que vous avez fournie sur l'événement, ce qui advient à ce qui est advenu. Le Festival français va être dans la tête de Huysmans et de Jean Zay quand Philippe Erlanger vient au rapport, conçu comme une réponse au fascisme. Mais voilà que Munich intervient le même mois, fin septembre 1938. Et il y a à la tête de la diplomatie française, Georges Bonnet, qui est très sensible aux vertus des accords de Munich, qui va, au mois de décembre 38, on ne s'en souvient pas, dérouler le tapis rouge devant Ribbentrop, le ministre des Affaires étrangères d'Hitler.
Absolument. C'est un épisode qui est bien connu pour la venue de Ribbentrop au début du mois, beaucoup moins connu pour sa suite logique. C'est-à-dire, ce sont des accords internationaux concernant certains domaines, et pour le cinéma, il y a un accord à la fin du mois de décembre qui est passé par le ministre des Affaires étrangères, et pas par Jean Zay, qui est à la tête de la culture pourtant, pour favoriser, faciliter la venue des films allemands en France.
Alors on imagine les conseils des ministres sous la présidence de Lebrun. Je dis on imagine parce qu'il n'y a pas de texte, évidemment, qui raconte les conseils des ministres.
C'était
Jean Zay,
interdit.
Jean Zay consigne des notes qu'on retrouvera dans ses souvenirs pendant l'occupation, avant d'être abattu par la milice. Il a eu le temps de rédiger ses souvenirs. Restitution, une émission de France Inter de Patrick Légibel.
La parole est à Monsieur Jean Zay, ministre de l'Éducation nationale.
Monsieur le Président du Conseil, mes chers collègues, qu'il me soit permis de présenter et de défendre une fois de plus devant vous le projet de Festival international du film.
Pardonnez-moi, chers collègues, si je vous interromps. Nous connaissons votre projet. Vous n'ignorez pas, quant à vous, les réticences de plusieurs d'entre nous, et en particulier les miennes, en tant que ministre des Affaires étrangères. Je ne vous ferai pas l'injure de vous rappeler que l'Europe est passée, il y a 4 mois, à 2 doigts d'une guerre que, par-dessus tout, nous devons avoir à cœur d'éviter. Les accords signés à Munich en septembre dernier par Monsieur le Président du Conseil, tous les efforts de mon ministère et de nos ambassades, bref, toute la politique extérieure de la France et de ses alliés, est dirigée vers ce but unique et supérieur qu'est la préservation de la paix. C'est pourquoi, je vous le répète, messieurs, pas de provocation. Ne sacrifions pas à des considérations, si nobles soient-elles, de prestige et d'orgueil national, les meilleures chances de paix de tout un continent.
Donc un festival international français serait une provocation, bonnet faisant barrage, pendant ce que vous appelez l'hiver munichois. Le projet de festival ne va cuire qu'à feu très doux. Mais en mars 1939, invasion de ce qui reste de la Tchécoslovaquie par Hitler, dont on ne peut plus imaginer qu'il ait des intentions pacifiques. Et là, Jean Zay repart à l'attaque.
D'autant que l'Albanie est aussi conquise par Mussolini. Effectivement, à ce moment-là, l'alternative munichois-anti-munichois ne tient plus de la même façon. Et en quelque sorte, les anti-munichois peuvent l'emporter au Conseil des ministres.
Il va faire appel aux États-Unis. Vous parliez de sa vision panoramique de la vie politique. Il négocie avec les États-Unis, enfin, il négocie avec l'industrie du cinéma américain.
Absolument.
Je sais pas qui c'est l'industrie du cinéma américain. Vous le savez.
Oui, parce que c'est très organisé. Moi et tous ceux qui connaissent l'organisation ICE, ce qu'on appelle l'organisation ICE, dans le monde du cinéma et dans le monde culturel, on a gardé le code ICE en mémoire, c'est-à-dire ce code qui
sur
était
censure.
De censure de bonne conduite. Mais en fait, derrière ça, il y avait une organisation qui regroupait, qui était un syndicat des producteurs, et qui en fait est l'interlocuteur. L'État américain ne se mêle pas de la naissance du Festival de Cannes. En revanche, les producteurs américains, dès septembre 1938, sont intéressés à un contre-festival.
Il va aller aux États-Unis, un grand voyage, le Normandie, juin 1939. Au retour, le cinéma américain, la profession va lui offrir un déjeuner à Paris. Il faut dire qu'il ouvre le marché aux films américains.
Absolument, dans ce qui est un décret qui paraît le 10 août 1939 et qui est un prototype des accords Bloom-Burns qui ouvrent le marché.
Qui auront lieu après la guerre.
Absolument.
Et qui seront tant... Qui seront tant reprochés.
Tant reprochés à Léon Blum, absolument. Mais là, il s'agit de contrer un décret que Mussolini lui-même avait pris et qui fermait le marché italien aux productions américaines.
Un mot sur le choix du site, parce que l'État culturel, c'est aussi celui qui négocie avec les collectivités locales. Bon, c'est la ville de Cannes qui va décrocher le gros lot, mais ça aurait pu être Alger. Vichy.
Oui.
Ça aurait été une opportunité pour Vichy. Vichy ne serait pas ce que Vichy aujourd'hui. Biarritz.
Absolument, Biarritz, pendant une semaine, est considéré comme le lieu du Festival international du film. Cannes finit par l'emporter parce que, à la fois, un hôtelier qui s'appelle Henri Jean, qui est le père de Louis Jourdan, la future vedette française aux États-Unis, le French Lover par excellence, souhaite et va faire un très fort lobbying, et puis surtout parce que le maire
de Cannes... C'est le propriétaire du Grand Hôtel.
Henri Gendre est le propriétaire du Grand Hôtel.
Le vaisseau amiral, c'est pas le Carlton, c'est le Grand Hôtel.
Tout à fait. Le premier vaisseau amiral, le premier hôtel de Cannes, si je puis dire, c'est le Grand Hôtel. Et Henri Gendre convainc Pierre Nouveau de mettre l'argent.
C'est Pierre Nouveau, c'est le maire.
Absolument, ouais. Pierre Nouveau est le maire de Cannes.
Et les hôteliers sont très contents. Ils ont des lobbyistes à Paris, quand même.
Oui. Ouais. Un en particulier s'appelle Georges Prade, qui finira mal, puisque ce sera un collaborateur pendant la Seconde Guerre mondiale, mais qui est très actif et efficace à ce moment-là.
Août 39, eh ben, tout va bien. Apparemment, le train de Louis Lumière arrive en gare de Cannes. C'est le président d'honneur du festival. On aménage une salle de 1000 places dans le palais des festivals. C'est un beau palais à l'époque.
C'est-à-dire
produisait des photos.
Ah, les photos sont magnifiques
aujourd'hui. Hein. La publicité est dessinée, les affiches sont conservées, le jury, les principes de sélection. Alors on va en venir, si vous le voulez bien, à la sélection. Ce festival antifasciste n'était pas seulement le festival des démocraties, puisque l'URSS y était très présente avec Lénine en 1918, les tractoristes. Et puis demain, si c'était la guerre, avec une chanson, au cas où les fascistes attaqueraient l'Union soviétique, eh bien, une force se lèverait, le cher Staline se tiendrait à notre tête, et Vorochilov On venait de liquider l'état-major de l'armée rouge et c'était maintenant Vorochilov nous mènerait à la victoire d'une main de fer.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun, sur France Inter.
Avec Olivier Loub qui vient de publier aux éditions Armand Collin, Cannes 1939, le festival qui n'a pas eu lieu. Le festival aurait-il eu lieu que les soviétiques n'auraient pu s'y présenter? Parce que ils arrivent avec des films martiaux, là, et le 23 août 1939.
C'est le pacte germano-soviétique.
Ribbentrop, le même que tout à l'heure, avec Molotov.
Molotov et donc
le ministre des Affaires étrangères de Staline.
Entre les deux grandes puissances dictatoriales, bien sûr. Mais ils étaient prévus, bien entendu, la sélection était prête, la venue était cadrée, c'est même ceux qui répondent en premier. Quand on regarde les archives, ce sont les soviétiques qui les premiers envoient leurs films, leurs délégations, etc. Bon, évidemment, le 23 août, tout ça devenait absolument irréel et impossible. Et donc, dès le 23 août, de toute façon, le festival est quasiment à l'arrêt.
Les Anglais, ils viennent ?
Oui, les Anglais prévoient de venir, mais ils prévoient de venir aussi à Venise 1939. Position anglaise très ambivalente malgré tout. À la fois on va à Venise et on va à Cannes.
Les Français viennent avec des films dont le choix étonne un peu aujourd'hui.
Quand on regarde la production française de 1939, on a l'impression qu'effectivement la sélection pour Cannes 1939 joue de malchance, puisqu'on a 4 films plus un, puisque Jean Zay rajoute un film documentaire qui s'appelle La France est un empire, et les 4 films sélectionnés sont des films qui, dans l'œuvre des réalisateurs, sont secondaires, malgré les stars qui sont présentes, Michel Morgan, Pierre Fresnay, Louis Jouvet. Et ce qui est particulièrement remarquable, c'est que sont allés à Venise 1939 des films non autorisés par le gouvernement, mais que ce sont des producteurs qui les amènent. Et la sélection française à Venise 39 est bien meilleure, puisqu'il y a La Bête humaine, La fin du jour par exemple.
Alors, oui, mais on a choisi pour la sélection officielle française de Cannes des films politiques et des films qui, pour beaucoup d'entre eux, insistent sur la puissance impériale de la France.
C'est la surprise et en même temps la vraie information de cette sélection française, c'est qu'elle insiste sur le fait que la France est une démocratie puissante parce que c'est une nation impériale. Et là, on le voit à travers 2 films en particulier, celui dont je viens de parler, La France est un empire, que le président du Festival de Cannes, Jean Zay, impose à la sélection, et puis L'homme du Niger, qui est un autre film sur une épopée civilisatrice dans la construction d'un barrage et la lutte contre la maladie.
Quand même, vous parlez de Michel Morgan, elle a reçu le prix du meilleur espoir féminin, mais enfin, beaucoup plus tard. Racontez-nous 2002. Ça, il y a eu un jury de 39 qui s'est réuni en 2002.
Absolument, sous la houlette de Jean d'Ormesson.
Bien sûr.
Et à ce moment-là, ce jury ne visionnera que 7 films, malgré tout.
Il y en avait combien de sélectionnés ?
32, et c'était encore pour 2 ou 3 en discussion. Donc, sur 7 films, c'est un film de Cécile B2000 qui reçoit la palme rétroactive. Et puis, ce sont 2 jeunes espoirs féminines qui sont désignées en 2002, Michel Morgan et Judy Garland.
Ah ben, ils se sont pas trompés, les jurés, de 2002. Une chose étonnante, bon, il y a des films belges, bon, il y a un film tchécoslovaque.
Ouais.
Et la Tchécoslovaquie, elle a été démembrée par les accords de Munich. Et elle a été détruite par l'invasion de mars 1939. C'est un film d'avant la catastrophe qui est présenté, qui est signé Hugo Haas. C'est l'histoire d'un terrible dictateur, hein, le maréchal Krieger, qu'on va entendre ici, s'adressant à la foule enthousiaste, bien sûr.
Aby na hrotech svých mečů přinesl svému národu nové, větší a širší hranice.
Bon, on pourrait croire, à entendre cet extrait, que c'est quelque chose comme le dictateur de Chaplin, mais il y a une autre histoire qui s'en mêle à la dénonciation de la dictature. Une histoire de maladie, de peste blanche, celle d'un docteur qui possède le remède pouvant amener à la guérison. Ce qui vous fait analyser ce film comme étant autre chose qu'un film totalement et radicalement antifasciste.
C'est un film anti-hitlérien, Hugo Haas le dit, il est interdit en Italie comme en Allemagne. Ça ne fait aucun doute. Cependant, la trame de ce film, c'est de dire on peut empêcher la guerre. Et donc c'est un film qui est un film, si vous voulez, anti-fasciste, anti-hitlérien, mais par la paix. Et la paix encore possible, l'histoire étant celle donc d'un docteur qui peut guérir ou pas un dictateur d'une peste blanche s'il déclare la paix au monde, en quelque sorte. Donc, contrairement au film soviétique que vous avez présenté tout à l'heure, ici, le film tchèque est un film qui espère et qui fait fond sur la paix pour stopper la marche à la guerre.
Alors, quand on présente un film tchécoslovaque, quand on présente un film polonais, quand on présente un film belge, parce qu'on se devine quand même, on devine quand même que la Belgique pourra être un jour une cible, ce sont des choix politiques. En même temps qu'un festival antifasciste, c'est un festival qui sert de vitrine commerciale aux Américains, parce que les intentions des Américains n'étaient pas seulement politiques quand ils décident de soutenir Cannes. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'ils ne vont plus à la Mostra?
Ils ne vont plus à la Mostra pour deux raisons qui renvoient à leur libéralisme. Politique d'une part, puisque le palmarès est contrôlé par les dictatures, et il faut jamais oublier cette part politique du libéralisme américain, et économique d'autre part, puisque Mussolini a décidé de contrôler les importations en septembre 1938 de films étrangers, c'est-à-dire essentiellement américains. Donc là, pour le coup, le business du cinéma américain est bloqué. Les Américains ont cette double intention. Rappelons malgré tout que le cinéma américain est un des très rares à produire des films antifascistes ou plus exactement antidictatoriaux. Et ça, ils n'en amènent pas à Cannes. Parce que pour eux, Cannes n'est pas le lieu de la présentation de films qui seraient politiques. C'est un lieu de vitrine de ce que fait de mieux. Et à ce titre-là, le cinéma américain, ce qu'il fait de mieux, il le montre bien à Cannes. La sélection américaine est absolument prodigieuse.
La Palme d'Or du jury de 39, qui, je le rappelle, a été décernée en 2002, l'a été un film de Cécile B. 2000.
Oui.
C'est l'année aussi de Monsieur Smith au Sénat.
Ouais, absolument. D'ailleurs, je trouve que celle de 2002 pouvait être retouchée, hein, parce que Union Pacifique, le film de CB 2000 dans la production américaine, de mon point de vue, c'est très subjectif bien sûr.
Vous auriez donné la palme d'or à Monsieur Smith au Sénat ou au Magicien d'Oz?
Ou peut-être un troisième même, qui s'appelle Seuls les anges ont des ailes et qui est un film formidable avec Cary Grant.
On n'est pas là pour vous satisfaire. On va entendre Philippe Erlanger racontant la montée possible des marches du palais par les Américains. C'est du moins ce qu'on attendait ou qu'on espérait. Et puis un extrait d'un autre film va vous être présenté.
Hollywood avait déjà envoyé des constellations de vedettes. Je me rappelle Norma Scherrer, George Raft, Tyrone Power, enfin combien d'autres. Pour vous donner une idée de la splendeur de ce qu'on préparait, la seule fête américaine devait coûter 100 000 dollars. Les Américains devaient présenter une des nombreuses versions qu'ils ont faites de Notre-Dame de Paris, d'après Victor Hugo, et ils entreprenaient de reconstruire une Notre-Dame en carton-pâte sur le sable.
Qu'est-ce que tu fais à Notre-Dame?
Je priais.
Tu ne saurais prier ici, hérétique.
Qui êtes-vous? On dirait un prêtre, et vous n'en êtes pas un.
Que t'importe qui je suis, obéis. Relève-toi et quitte vite cette église.
Non.
Tu as profané les pierres sur lesquelles tu t'es agenouillé.
Moi?
Oui, toi, tu danses en public devant les hommes que tu fascines et tu éveilles des désirs impurs et sacrilèges. Relève-toi!
Lâchez-moi!
Frollo le méchant et Esmeralda dans Quasimodo, film américain médiévaliste, moyenâgeux, qui a été présenté. Ah oui, il a été présenté, lui, à Cannes.
présenté, mais c'est une projection privée. C'est-à-dire, le festival n'avait pas commencé. C'est une projection promotionnelle avec, comme le raconte Philippe Erlanger, l'idée de faire sur la plage même une reproduction, peut-être en sable, de Notre-Dame de Paris. Ce qui montre bien que ce festival de 39 est une anthologie prémonitoire de ce qui va se passer dans les autres festivals.
Anthologie prémonitoire.
Oui, la formule est de Georges Perec. Elle n'est pas de moi.
Oui, parce que Georges Perec apparaît souvent dans votre Cannes 1939.
Oui, beaucoup. On travaille sur les Je me souviens. Cannes 39, c'est un Je me souviens qui n'a pas eu lieu. Mais cependant, on voit bien qu'à Cannes 1939, toute une série de matrices de ce que seront les festivals de Cannes jusqu'à nos jours sont déjà sur le sable avec Quasimodo.
Je me souviens, Georges Perec, il aurait consacré un paragraphe au bal des petits lits blancs qui devait précéder les festivités. Et que vous pouvez raconter ?
Absolument, puisque c'est un vrai, à la fois c'est l'avant-première. Le 22 août 1939, s'est tenu au Palm Beach de Cannes, là même où devait se tenir la soirée inaugurale, le gala inaugural du festival, s'est tenu le bal des petits lits blancs, institution caritative annuelle, qui était un bal avec 1000 couverts à 1000 francs, 5 plateaux avec orchestre, Fernandel dans un gala mémorable, paraît-il. Ce qui est de particulièrement mémorable, c'est que l'orage éclate en plein milieu de la fête et que tout le monde part, c'est la grande débandade. Et dès le lendemain matin, le 23 août, on a le pacte germano-soviétique et on a les affiches de mobilisation à côté des affiches du Festival de Cannes.
En guise de clap de fin, ces propos de Jean Zay qui déplie son agenda. Il intervient ici dans les actualités vers la mi-août, avant tous ces événements que vous venez de raconter.
Je présiderai le 1er septembre le dîner d'inauguration. Le 4 septembre, la nuit du cinéma promet d'être l'un des événements de l'année. Le 9 septembre, il y aura le dîner de l'élégance au Palm Beach de Cannes. À Juan-les-Pins, on annonce également pour le 14 septembre un dîner de gala. Ajoutez que toutes les manifestations du festival seront filmées au jour le jour et projetées ensuite au cours des galas. Nous espérons ainsi que le Festival international du film de Cannes sera un triomphe de l'organisation, de l'accueil et du goût français.
Il ne sera pas à Juan-les-Pins, il sera sous les drapeaux, Jean Zay.
Absolument, dès le mois de septembre, il décide, alors même que ministre, il était mobilisé à son poste, de rejoindre l'armée française pour combattre avec les jeunes de sa génération, dit-il. Et ce faisant, il va donc être engagé lui aussi dans l'aventure collective de la guerre qui s'ouvre, au point en revanche de finir par être assassiné par les miliciens en juin 1944.
Un peu avant la libération, et il repose maintenant au Panthéon. Merci à vous, votre livre Cannes 39, Olivier Loub, c'est aux éditions Armand Collin. Cette émission a été préparée par Franck Aliva. On va y ajouter le nom de Clara Garson, qui a travaillé avec vous et qui travaille aussi souvent avec nous. Et puis saluer Kevin Pelot, notre technicien. Est-ce que j'ai dit que la réalisation était de Jacques Sigal? Est-ce que je dois dire que La Tête au Carré, c'est dans 3-4 minutes?
Oui, Jean.
Et alors, attendez votre programme, alors là, Mathieu Vidard.
Comment apprivoiser les peurs pour retrouver la confiance, Jean?
Optimisons.
Voilà.
Du monde de la peur au monde de la confiance, deux univers psychiques très différent.